France Musique. France Musique, les grands entretiens, Thomas Verkracht.
Je m'appelle Philippe Hersant, je suis né à Rome le 21 juin 1948 et je suis compositeur.
Philippe Hersant, quand vous êtes à France Musique, vous êtes revenu de la Casa de Velázquez, mais vous partez un moment à la Villa Médicis aussi.
Oui, à la fin des années 70, je me suis présenté effectivement à la Villa Médicis, ce qui était un vieux rêve, mais comme j'avais écrit très peu d'œuvres, je ne pensais pas que je serais admis. Et puis, les membres du jury étaient Dutilleux et Ami, Gilbert Ami. Et à ma grande surprise, j'ai été admis. Et je peux dire que je suis vraiment né en tant que compositeur à la Villa Médicis.
C'est d'avoir revu l'Italie.
Ben, je suis né à Rome en juin 48 et je suis de nouveau né à Rome en tant que compositeur en 78, 30 ans plus tard. J'ai eu une double chance, c'est-à-dire d'abord d'être nommé à la Villa Médicis, donc d'avoir du temps pour travailler, de ne plus avoir les cours, les émissions, etc. Et d'autre part, d'avoir ma première commande importante de la part de Charles Chêne, qui, à force de me voir dans les couloirs, m'avait passé commande. Et c'était une œuvre pour l'Orchestre Philharmonique. Et c'est la première œuvre sur laquelle j'ai vraiment travaillé. C'était une œuvre que j'ai portée pendant 3-4 mois, avec un soin, même dont je ne me serais pas cru capable. Enfin, et c'est la première œuvre dans laquelle je me reconnais. C'est une œuvre qui s'appelle Stance, à laquelle je trouve beaucoup de défauts maintenant, mais que je ne renierai jamais parce que j'y suis sentimentalement attaché et que je lui trouve aussi des qualités malgré ses défauts, notamment d'éthique, de langage, etc. Mais je me reconnais vraiment dedans.
Et alors justement, qu'est-ce que ce seraient les éléments où vous vous reconnaîtriez?
Ben, c'est cette acceptation finalement d'un héritage du passé. Mais c'est vrai que je ne l'acceptais pas et ça me bloquait complètement. Et là, c'est un petit détail, mais ça commence par un accord de fa mineur, avec des quarts de ton quand même, pour
quand
faire
même,
un peu moderne.
Hein.
Voilà. Et des trémolos. Gilbert Ami, qui a dirigé la pièce, m'a dit ça, c'est le côté lac des cygnes du monsieur. Je ne pense pas que c'était un compliment. Mais j'ai laissé passer mes envies à la fois mélodiques, harmoniques et les réminiscences de musique qui avaient pu me toucher par le passé. Où j'ai arrêté de me censurer, en fait. Pas complètement, hein, pas complètement. Ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Mais il y avait une acceptation de soi, tout bêtement. C'est d'ailleurs exactement ce que m'a dit Jean-Louis Florence, qui a entendu l'œuvre que je connaissais pas encore à l'époque. Mais il m'a dit, quand j'ai entendu, j'ai dit à quelqu'un qui ose écrire ce qu'il a envie. Et je lui ai dit, en tout cas, c'est peut-être, mais c'est vraiment nouveau pour moi, parce que c'est bien la première fois.
l'avez rencontré à ce moment-là, Jean-Louis Florence ?
J'ai rencontré peu de temps après la création de Stance, parce qu'il se présentait lui-même à la villa, où il est arrivé quand j'étais en deuxième année. Et j'ai dû le rencontrer 4-5 mois après. Et on s'est reconnu d'ailleurs un peu dans cette volonté d'échapper au diktat. C'était quand même assez terrible. Enfin, il y avait une voie qu'il fallait suivre. C'était dans le milieu musical contemporain. Un peu selon l'idée de Boulez, que quiconque n'a pas assimilé la leçon de Webern est inutile.
Pourtant, il était plus beaucoup en odeur de sainteté, Boulez, à cette époque-là.
Non, mais il y avait cette idée qu'il y a une voix et c'est tout. Et je trouve que c'est une idée un peu effrayante. C'est ça ou rien. Non, il y a des milliers de voix possibles, heureusement.
Surtout quand on repense, justement, vous parliez de Jean-Louis Florence, lui tellement influencé, c'est même plus dans l'influence à ce niveau-là, par les musiques ethniques. Est-ce qu'il écrivait déjà des œuvres inspirées par les musiques traditionnelles à cette époque-là ?
Ah oui, oui, oui. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Florence, c'était pour son opus 2, je crois. Je crois que ça s'appelait Ténéré, cette œuvre, il me semble. Inspiré, oui, par les déserts sahariens et par les musiques ethniques. Mais Jean-Louis s'était trouvé beaucoup plus vite que moi. Il avait une réelle maturité. Les premiers essais de composition de Jean-Louis Florence, on le reconnaît déjà. Il était sûr de ce qu'il voulait faire, il était sûr de sa voix. Il a pas eu tous ces méandres invraisemblables dans lesquels je me suis débattu et perdu parfois. On s'est retrouvé effectivement dans cette volonté de pas nous laisser intimider forcément par ces diktats. Voilà ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire ça et pas autre chose ? Pourquoi ? Moi, j'ai beaucoup souffert de ça, hein, vraiment, pendant 10 ans. Comme j'étais pas armé pour me défendre et pour imposer ma vision, j'ai pensé qu'effectivement, c'était pas la peine d'écrire de la musique si on ne suivait pas la voie qui était préconisée. Mais ce qui m'a aidé aussi en étant à la Villa Médicis, qui est dans une ville qui n'est culturellement, surtout à l'époque, pas tellement vivante, enfin il se passe pas grand-chose à Rome, encore moins pour la musique contemporaine. Donc le fait de ne pas voir le regard du milieu peser sur moi, je pense que ça m'a vraiment aidé à me détacher de ces diktats. Et puis je crois qu'il y avait aussi le sentiment que c'était la dernière chance, quoi. C'est-à-dire c'est soit t'écris ce que t'as envie d'écrire, ou tu essayes en tout cas, soit t'arrêtes, mais on peut pas continuer à écrire des œuvres qu'on a aucune envie d'écouter après. Enfin, si on n'éprouve que de l'effroi devant ce qu'on produit,
c'est pas le but.
C'est pas la peine de continuer. Bon.
Philippe Hersant, à propos du métier véritablement, comment est-ce que vous composez ? Vous composez au piano ou à la table ?
Je compose au piano, beaucoup. J'ai besoin d'un résultat sonore, même si je sais qu'il ne va pas du tout correspondre, enfin, ou très peu, au résultat final, puisqu'un piano ne peut pas rendre un orchestre ni un.
Et j'ai une question peut-être beaucoup plus large. Est-ce que il y a une réponse à comment on se forge un style en tant que compositeur ?
Je serais bien normal de vous le dire, parce que ça a été tellement chaotique. Moi, je vois certains jalons. Je vois des pièces qui sont vraiment caractéristiques d'une démarche et d'une évolution du style, mais je m'en suis rendu compte que bien après. Je pense la pièce charnière, vraiment, pour moi, c'est la deuxième que j'ai écrite à la Villa Médicis, qui s'appelle Mouvement, qui est une pièce pour piano, dans laquelle s'étale, sans que je m'en sois absolument rendu compte à l'époque, toutes mes contradictions.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est une pièce que je veux moderne, entre guillemets, qui est très influencée par le Klavierstück 10 de Stockhausen, que j'avais entendu jouer de façon phénoménale par Paulini aux Champs-Élysées, avant de partir à la Villa, qui est une longue pièce de 30 minutes, avec beaucoup d'effets de résonance, de longs silences. Bon, c'est une pièce d'une sorte de cathédrale sonore qui est vraiment très très impressionnante. Donc Mouvement commence un peu à la Stockhausen, et progressivement, derrière ces résonances apparaissent des harmonies, des mélodies, des fragments des Gauleiter de Schoenberg, un accord de fa mineur, complètement tout ça en 5 minutes. Quelque chose de très éloigné du geste de départ, comme si je voulais, derrière cette modernité apparente, etc., creuser un peu plus. Et pour moi, c'est très symptomatique, oui, de l'évolution qui allait suivre.
France Musique, les grands entretiens de Philippe Hersant.
Presque logiquement, comment vous le décririez, votre style, justement ?
Je sais que ce qui me touche beaucoup, moi, c'est de sentir le passé surgir du présent. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'adore les villes anciennes comme Rome, comme Naples, où ce sont des villes très modernes, très actuelles, très bruyantes, vraiment des villes. Et au détour d'une rue, on a l'impression d'être retourner à des siècles en arrière. Et ce télescopage du temps, ce passage du temps, est quelque chose qui me fascine beaucoup. Et c'est ça que j'essaye de restituer dans mes œuvres, où il y a toujours... c'est pas des pastiches, ça, le pastiche m'intéresse pas, c'est la confrontation entre le passé et le présent. C'est le passage du temps, ce que Chateaubriand appelait l'admirable tremblement du temps, il avait le sens de la formule. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, que j'adore, par exemple, c'est pour ça que je suis tellement attaché à Fellini, c'est qu'il y a ça chez lui. C'est-à-dire, dans un film comme Roma, par exemple, il y a la Rome antique, la Rome de ses souvenirs, la Rome contemporaine, dans une espèce de télescopage de différentes périodes qu'on retrouve, je crois, vraiment dans mes œuvres. Mon trio, par exemple, est une œuvre dans laquelle le piano au début joue contemporain, entre guillemets, le violoncelle joue presque romantique et le violon joue baroque. Et les trois se retrouvent ensemble. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup rendre palpable dans mes œuvres, que j'essaye de rendre palpable. D'où ces allers-retours constants entre passé et présent.
Thank you. un de vos premiers opus et où personnellement je sens vraiment l'émergence vraiment d'un véritable style, c'est votre Missa Brevis de 86. Comment on pourrait décrire le langage que vous utilisez dans cette pièce-là spécifiquement, qui est très particulier aussi ? Très teinté de musique ancienne pour le coup. Là.
Oui, effectivement, là, c'est la première pièce dans laquelle j'ai vraiment fait des allusions, surtout dans l'Agnus Dei, très claire à la musique ancienne, musique archaïque presque dans le début de l'Agnus Dei, citation d'une œuvre de Thomas Tallis, une motet à 40 voix. Oui, c'est vraiment la première œuvre dans laquelle j'ai... C'est une œuvre religieuse, c'est sans doute pas par hasard, dans laquelle j'ai essayé de réunir passé et présent. Le Sanctus est assez différent. Il évoque plutôt pour moi des souvenirs d'enfance. Alors, dans un côté plutôt, peut-être avélien ou. Mais c'est effectivement la première œuvre dans laquelle je n'ai pas hésité à unir des éléments assez contraires en essayant qu'ils forment un tout. Et c'est aussi une œuvre qui est liée à beaucoup de souvenirs. Des souvenirs d'enfance, des souvenirs de ma première œuvre, là, j'ai dit que celle qui s'appelait Dolce Stilno, que je cite à cet endroit-là. Le motet 40 voix aussi est un souvenir précis, des souvenirs personnels, mais je pensais la première fois que j'osais le faire. Mais encore une fois, c'était pas du tout délibéré, hein. Je me suis pas dit, ça s'est fait, c'est après coup que je me rends compte.
Et pourquoi avoir choisi d'écrire une messe brève comme ça dans les années 80? C'était une commande ou c'était une volonté
C'était une commande du Festival d'Art Sacré, qui n'existe plus maintenant, mais il y avait un Festival d'Art Sacré de la ville de Paris. Il y a un certain temps que je voulais écrire une messe, mais j'avais beaucoup de problèmes avec le Gloria et le Credo, à cause de leur longueur, à cause de leur... C'est pour ça que j'avais choisi finalement la messe brève, qui est une messe qui n'utilise que les trois hymnes, le Kyrie, le Sanctus et l'Agnus Dei.
Et par la suite, vous avez écrit pas mal d'œuvres avec des sujets religieux. Vous avez un rapport particulier avec la religion ?
Non, je suis agnostique. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique, mais je suis pas pratiquant. Mais la religion catholique fait partie de ma culture, vraiment, profondément. L'art religieux, ça dépasse l'idée de pratiquer ou de pas pratiquer, mais non, ça fait partie de ma culture, au même titre que Bach, Mahler, Monteverdi. Moi.
Parce que si on vous dit que dans votre musique, on y perçoit parfois une espèce de recueillement, quelque chose d'intérieur, surtout dans des œuvres plus récentes.
Oui, je pense. Finalement, ça occupe une part assez importante dans mon catalogue, les œuvres religieuses. Même celles qui n'ont pas une destination religieuse ou un texte religieux particulier. Mais non, effectivement, l'idée de recueillement, de méditation, de dépassement de soi, de notre condition, de tout ce qu'on peut assimiler, si vous voulez, à l'art religieux, c'est très présent dans mes œuvres, oui.
Mm-hmm.
Philippe Hersant, dans votre catalogue, il y a donc beaucoup d'œuvres chorales. Est-ce que vous avez un rapport particulier aussi peut-être à l'écriture pour chœur?
Alors ça c'est pas une volonté de départ non plus, parce que mes premières œuvres sont surtout orchestrales et quelquefois des gros orchestres. J'étais plutôt attiré par l'orchestre, à vrai dire. Il y a une évolution qui s'est faite, surtout à partir de la Missa Brevis. Il y a aussi une part, je dis pas que c'est du hasard, mais enfin, j'ai eu beaucoup de commandes. Une année même, je n'ai eu que des commandes d'œuvres pour chœur. Peut-être que les chœurs aiment bien chanter ma musique, je sais pas, mais j'avais... Donc ça s'est fait sans qu'il y ait une volonté au départ. Je dois dire même que l'écriture pour chœur ne m'attirait pas particulièrement au début. J'ai eu du mal à écrire la Missa Brevis même. C'était pas vers cette forme-là que j'avais envie d'aller. Et puis ça s'est fait progressivement et maintenant au contraire, j'adore écrire pour chœur. C'est même probablement, je pense, la partie la plus importante de mes œuvres, c'est l'œuvre chorale. À vrai dire, ce que je préfère, c'est pas tellement l'écriture chorale, en tout cas a cappella, c'est l'écriture chorale avec quelques instruments. J'aime beaucoup opposer à un instrument seul à un chœur. Ce qui s'est pas fait énormément, en général, sauf peut-être avec le piano. La voix instrumentale seule, face à un chœur, a quelque chose d'encore plus fort, plus émouvant pour moi qu'un instrument face à un orchestre. Bon, j'ai écrit pas mal de concertos aussi, mais c'est vrai qu'écrire une pièce pour basson et chœur de femme, par exemple, c'est ou pour flûte et chœur d'homme, ou pour viol de gambe, j'ai quand même pas mal de pièces pour viol et ensemble choral. Voilà, cet instrument isolé face à une... Enfin, ça, c'est le principe du concerto, hein, face à une masse de voix humaine. C'est un dispositif qui me touche beaucoup et que j'utilise vraiment très souvent.
Wanderung de Philippe Hersant, Pascal Gallois au basson et l'ensemble vocal Aedes dirigé par Mathieu Romano. Prise de son Valérie Lavalard, mixage Philippe Thibault, une réalisation de Christine Amado, une émission réécoutable et podcastable sur le site francemusique.fr et rendez-vous demain pour le 4e épisode.
À réécouter sur francemusique.fr.